heures armées. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu a faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Et donc, il en fit de ce jour un jour réservé pour lui. J'ai marqué ici, c'est grâce à Dieu que nous avons un jour de congé. Puis les syndicats ont pris la relève pour ajouter un deuxième, puis les 35 heures. Et aujourd'hui, si on pouvait descendre à 32, voire à 30 heures, c'est ce qu'ils souhaiteraient. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la politique, hein, vous aurez compris. Mais voilà, le Seigneur s'est donné à lui un jour et il nous a donné à nous un jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? Dieu avait travaillé toute la semaine, 6 jours. Et quel travail! J'avoue qu'en étudiant Rendez-vous avec la Bible, cette portion de la, enfin cette part de la création avec l'équivalent entre la parole de Dieu et les découvertes scientifiques récentes, moi en tout cas, j'ai vécu, et ça reste au fond de mon cœur, quelque chose de un émerveillement de tout ce que Dieu a pu faire pendant ces 6 jours. C'est tellement grandiose et on n'en connaît qu'une toute petite partie. On le sait aujourd'hui. Et en fait, le mot pour le repos de Dieu peut a plusieurs synonymes. Il signifie rassasié, complet, plein, entièrement achevé, s'abstenir de l'effort, célébrer. J'ai trouvé intéressant. Le repos, c'est s'abstenir de l'effort. Il n'y a rien d'autre qui a été créé depuis. Le mot qui est utilisé dans Genèse 1 est le mot bara. C'est un mot qui est unique dans l'Écriture et qui signifie créer à partir de rien du tout. Nous, on dit qu'on a créé des choses, mais on les crée forcément à partir de la matière, de quelque chose. Mais Dieu a créé par sa parole, il dit et il crée quelque chose qui n'a jamais existé avant. Et en fait, il n'y a rien qui n'a été créé depuis dans ce sens-là. Des éléments ont grandi, évolué, changé ou disparu, mais tout ce qui avait été créé l'avait été complètement fait à la fin du sixième jour. Dieu parle à ce moment-là de ce repos, et la notion suivante où il parle de ce repos ou de ce Shabbat, hein, puisque c'est le mot hébreu, se retrouve seulement quand Dieu pourvoit aux besoins du peuple d'Israël quand ils sont dans le désert et qu'ils n'ont rien à manger et qu'ils réclament de la viande et du pain et qu'ils râlent et qu'ils rouspètent en disant « Mais quand on était en Égypte, là on avait de quoi manger ». Et donc Dieu, sans tenir compte de leur attitude déplaisante, leur donne des cailles et de la manne, hein, une forme de pain, de granules de pain. Et il leur donne, et donc c'est la deuxième fois où il est question du repos, il leur demande de récolter cette manne pendant 6 jours, et de se reposer le septième. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Et il devait prendre une double portion, le sixième, pour ne pas avoir à ramasser le septième. Et bien évidemment, il y en a qui ont voulu faire autrement. Et voilà, malheur à eux, parce que ça s'est mal passé. La troisième notion de ce Shabbat, de ce repos, se trouve dans l'Exode 20, au chapitre 20, et où il est question du décalogue, vous savez, de ces 10 lois fondatrices que Dieu a données à Moïse sur la montagne et qu'il pose là comme une loi, une règle pour tout le peuple d'Israël. Et on sait que ce jour est encore pratiqué aujourd'hui, le samedi en Israël. Alors, pour les musulmans, c'est devenu le vendredi. Et pour les chrétiens, c'est devenu le dimanche, puisque c'était pas le septième jour, mais le premier jour après la résurrection. Voilà, après, on va voir quel est le sens exact de ce repos que Dieu nous offre. Pour trouver la concordance avec le repos aujourd'hui, quel est le sens de ce repos, outre le fait de venir le dimanche matin au culte, par exemple? C'est Jésus lui-même qui nous en donne le sens. Si tu peux mettre Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. On a l'habitude de lire ces textes et de les limiter quelque part aux périodes où on est fatigué, où on est lassé, où on peut être abattu. Mais en fait, je crois profondément que là, Jésus donne un sens beaucoup plus profond et plus vaste au sens du repos qu'il veut nous offrir. Le repos de nos âmes. Et je crois que là, nous sommes au cœur de ce qui fait la différence entre le religieux et la vie avec Christ. Christ était attaché à cette séparation claire de tout ce qui pouvait être de l'ordre du religieux, du légalisme, et ce que lui voulait nous apporter. Dans Hébreux 4, 1, il nous est dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Je vous donnerai du repos. » Il y a là une promesse de Jésus. Mais de quel repos s'agit-il ? Nous savons que l'être humain est un être éminemment religieux. Nous vivons dans une culture où pratiquer des bonnes œuvres fait partie de toutes nos traditions et au-delà des traditions, de tout notre désir humain de se dire, voilà, il doit exister un Dieu et comment lui faire plaisir ou comment être agréé par lui. D'autres personnes sentent qu'il peut y avoir de la colère de la part de Dieu, un jugement qui peut venir sur nos vies, sur le péché de nos vies. Et tout cela nous mène à pratiquer des œuvres, c'est-à-dire à travailler à notre salut avec nos propres forces. Hein? Faire des bonnes œuvres. Alors, je ne sais pas pour vous comment vous envisagiez la chose ou comment vous envisagez cela aujourd'hui, mais moi je me souviens qu'avant d'être chrétienne, ma vision de... à la fois de cette relation à ce Dieu que je ne connaissais pas encore, voire à ce qu'il y aurait dans l'au-delà, parce qu'on a une conscience de l'éternité, mais on ne sait pas très bien ce qui va s'y passer. Moi, je voyais comme les balances de la justice, les mauvaises œuvres, les miennes, et puis mes bonnes œuvres. Et au fond de moi, je me disais, bon, j'espère que ça va pencher du bon côté, hein. Et alors, j'imagine que beaucoup se retrouvent dans cette vision-là. Hein? Donc, moi, je pratiquais des bonnes œuvres. Je me disais que je faisais des bonnes choses. Il y avait des choses, voilà, mais je disais, peut-être que, voilà, ça... Enfin, ouais, quand même, hein, les bonnes vont... mais je n'avais aucune certitude de ces choses-là. Hein, dans d'autres cultures, d'autres se purifient dans des rivières, ils ont ce besoin de se purifier. D'autres passent beaucoup de temps dans le jeûne, on sait que c'est aussi une pratique qui peut permettre à des gens de se dire « je vais me rapprocher de Dieu pour lui être agréable ». D'autres font des offrandes dans des temples, ils apportent plein de choses, même à s'en priver eux-mêmes de l'essentiel. D'autres croient même que le sang d'un animal peut les purifier, laver des péchés. Et ça va même jusqu'à des choses encore plus graves, puisqu'au-delà des sacrifices animaliers, on peut aller jusqu'au sacrifice humain pour tenter de plaire à Dieu. Donc, on se rend compte que pratiquer ces œuvres, c'est pas rien. C'est faire des efforts. Et le lieu commun de toutes ces pratiques, c'est le doute, l'incertitude. Ne jamais savoir si vraiment ce que je fais va être agréé aux yeux de Dieu. Et beaucoup de gens, voire même des personnes dites chrétiennes, vivent sans avoir cette assurance d'être agréé par Dieu, d'être réconcilié avec Dieu. C'est terrible de vivre avec cette incertitude en permanence. Et je trouve effrayant au jour d'aujourd'hui de voir tant de pratiques religieuses, pas seulement chrétiennes, mais dans d'autres religions qui poussent des fois, mais jusque à des extrêmes. Paul les appelle des œuvres mortes. C'est terrible, c'est grave. Mais le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour nous apporter une bonne nouvelle. Venez à moi, dit Jésus-Christ, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. L'appel de Jésus à venir à lui pour recevoir cette promesse, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai de vous abstenir de faire des efforts qui ne servent à rien à mes yeux. Hein, si on peut paraphraser le texte de Jésus. Moi, ce que je veux vous apporter, c'est vous faire comprendre que vous pouvez vous abstenir de faire tous ces efforts, c'est-à-dire de vous reposer parce que ses efforts ne servent à rien. Dieu avait dit à Moïse, « Demain, je vous donnerai du repos. » Et en soi, c'était une parole prophétique qui annonçait la venue de Jésus. Je peux entrer dans ce repos, c'est-à-dire m'abstenir de faire des efforts inutiles en accueillant, en recevant pour moi la seule œuvre utile répondant aux critères de sainteté de Dieu. Je veux dire le sacrifice de Jésus à la croix, mort et ressuscité de la mort pour m'offrir ce repos. Ça s'appelle la grâce, et Michel nous a fait une prédication sur la grâce dimanche dernier. Et je peux enfin vivre avec l'assurance d'être réconcilié avec Dieu pour l'éternité, l'assurance que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je crois que ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je n'ai plus besoin de faire des efforts toute ma vie pour me dire oh, « peut-être que je vais plaire à Dieu ou je vais lui être agréable. » Christ a fait la seule œuvre qui est agréable au Père. Parce que Dieu est parfaitement saint et moi je ne le serai jamais au sens dans ma nature, donc tout ce que je peux faire n'aboutira, n'arrivera jamais, ne serait-ce qu'à un semblant de la hauteur de l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai besoin de cette œuvre, et quand Jésus dit « recevez mes instructions, prenez mon joug », ça veut dire « dites oui à Jésus », tout simplement. C'est peut-être l'œuvre la plus compliquée à faire. Quelqu'un disait que la distance entre la tête et le cœur était la plus longue que l'être humain devait faire. Parce qu'entre deux, il y a notre ego. Parce que dans notre nature humaine, on veut toujours faire tout seul. C'est moi que je veux faire. Hein? J'ai pas besoin des autres. Et quand ça va pas, ben c'est la faute des autres. C'est pas de moi. Hein? Donc, voilà, je crois que l'Évangile est annoncé, Christ est mort à la croix, pour vraiment nous apporter cette extraordinaire nouvelle qu'on peut entrer dans son repos. Hébreux 4, 7, si tu peux le mettre. Dieu fixe de nouveau un jour, c'est plus demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car le aujourd'hui de Dieu, il dure depuis 2000 ans. En anglais, on a une formule grammaticale qui est le présent continu. On ne l'a pas en français. Mais avec Jésus, c'est du présent continu. C'est aujourd'hui le temps de sa patience, de son appel, pour entendre cet appel de Dieu à entrer dans son repos. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et si j'accepte de recevoir et d'accueillir l'œuvre de Jésus pour moi, alors il me dit que je peux entrer dans ce repos. Et il me dit que je vais être assise avec lui dans les lieux spirituels à côté du Père, avec lui. Waouh, c'est difficile à réaliser. Hein. J'ai listé dans Éphésiens 1, pour ceux qui voudront se nourrir de cela, élu avant la fondation du monde, prédestiné à être ses enfants d'adoption, la rédemption par son sang, héritier de Dieu, c'est quand même pas rien, et scellé du Saint-Esprit en gage de notre héritage. Waouh, ça c'est le repos de Dieu. Ça change du samedi ou des 35 heures. Hein. C'est du costaud, du solide, du fort, de l'extraordinaire. Et cela pour l'éternité. Et j'en suis bénéficiaire si je dis oui à Christ. Donc, je suis non seulement en repos, je n'ai plus besoin de faire des efforts. J'ai un héritage extraordinaire dans les cieux. Je suis assise, donc, sur la chaise longue, les doigts en éventail, je ne fais plus rien. Je ne suis pas sûre. On va lire Éphésiens 2, 8 à 10. Alors, il faut que je le trouve. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas une œuvre, c'est un cadeau. Ça n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Entrer dans le repos de Dieu, ce repos, c'est aussi entrer dans le projet qu'il a pour chacune de nos vies, de toute éternité, avant ma naissance, avant même ma conception, Dieu avait des plans et des projets pour ma vie. Des œuvres préparées d'avance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et par amour et en réponse à ce salut, à ce repos que Dieu nous offre, il nous demande d'entrer dans ce plan et dans ses projets. Ça veut dire que, voilà, le repos de Dieu, ça n'est pas être inactif, bien au contraire. C'est certainement aussi travailler. Mais travailler dans un projet qui est préparé d'avance. Je marche dans des œuvres qui sont déjà préparées d'avance. Et ça, c'est extraordinaire. Je dois vraiment aujourd'hui donner ce témoignage. J'arrive un petit peu au soir de ma vie et j'ai eu le bonheur de répondre à cet appel de Dieu il y a 50 ans. Et aujourd'hui, je disais à mon fils l'autre jour, je lui ai dit, tu sais, je suis une femme comblée. Dieu a comblé ma vie. Ça ne veut pas dire que tout a été facile, loin de là, ou que tout est encore facile aujourd'hui, non. Mais de pouvoir regarder derrière et dire, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Je me souviens du jour où il m'a dit, tu quitteras ton pays, tu iras dans le pays que je te montrerai. Tu auras tel service, tu auras tel projet, tu iras en Bretagne. Il a tout mis en place, il m'a tout donné, il m'a tout fait vivre. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il m'a donné un mari, moi qui pensais rester célibataire. Des enfants, des petits-enfants. Enfin, voilà, mais dans son service, dans son appel, dans ses projets, c'est un vrai repos intérieur que de savoir qu'on marche dans ce projet que Dieu a pour nous. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu nous parle de ses œuvres. On ne va pas noter tous les versets, mais dans Tite 2, 14, il est dit « Afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Quand il est question de bonnes œuvres, ce n'est pas au sens où la tradition l'entend, c'est ces œuvres bonnes par opposition aux œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres qui entrent dans ces plans préparés par Dieu. Et ce sont des œuvres bonnes, quel que soit l'appel que Dieu dépose sur ta vie, et nous sommes autant que nous sommes, autant il y a un appel et une diversité, une richesse. Et cet appel, ce témoignage se vit à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Dans Éphésiens 3, verset 10, c'est aussi un merveilleux verset. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Et il y a ce repos aussi en pratiquant ces œuvres bonnes dans le cadre de l'Église collectivement. Nous avons une vraie responsabilité à vivre notre individualité dans un collectif, parce que l'Église, avec un grand E, manifeste la présence et le témoignage de Jésus-Christ devant les puissances célestes. Donc, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voulais terminer avec un dernier élément. Il y a des obstacles pour vivre parfois ces choses. Et je me suis dit, eh bien, que le premier GPS, c'est Dieu. Je crois que comme dans notre route, notre GPS, des fois on rate le carrefour, on se trompe de route, on l'a tous vécu. Mais votre GPS, tout le temps, il recalcule le chemin pour aller à l'objectif final. Le Seigneur y fait pareil. Si vraiment j'ai le désir aujourd'hui de revenir dans la bonne route, le GPS de Dieu, qui est Dieu lui-même, va m'y conduire. Parce que Dieu, dans sa bonté, veut que tous nous soyons sauvés, que tous nous parvenions à l'objectif qu'il a fixé de toute éternité pour nos vies. Donc, je crois aujourd'hui que si tu n'as pas encore dit oui pour entrer dans le repos, c'est-à-dire pour que tu puisses jouir de t'abstenir de faire des efforts et d'entrer dans tout ce que Dieu a préparé, ou si en cours de route il y a eu un écueil et qu'il faut réactualiser le GPS, Dieu peut le faire. C'est pourquoi dans Hébreux 4, 7, alors j'ai Hébreux dans ces chapitres 3 et 4, on lit à plusieurs reprises. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Israël, c'est vrai, n'a pas voulu assouplir son cœur et obéir à Dieu et a passé 40 ans dans le désert. On peut tourner en rond. Mais aujourd'hui, ce n'est pas demain, je te donnerai du repos. C'est aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, dis oui à Dieu, et où tu entreras dans ce repos, ou s'il y a eu un écueil sur la route, le GPS qui est Dieu va réactualiser toute la route pour qu'ensemble on puisse aboutir au même endroit, c'est-à-dire ensemble pour l'éternité, à nous réjouir et à nous reposer. Amen.